Bonsoir. La conférence épiscopale nationale du Congo plaide pour des négociations directes entre les rassemblements et les parties prenantes au dialogue de la cité de l'Union africaine en vue d'éviter au pays de sombrer dans le chaos. La SANCO a lancé cet appel vendredi dernier au cours d'une conférence de presse pour expliquer la mission des bons offices menée auprès des acteurs politiques et forces vives de la nation. Réagissant à cet appel, la majorité présidentielle dit prendre acte de l'échec de la mission de la SANCO, déclaration que rejette le rassemblement. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 5 décembre 2016 plutôt. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats à Donatien Cholet. Il est premier secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo. Abbé Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Atundu, bonsoir. Délice Essanga, député national de l'opposition et président de l'Envol. Il est aussi président de la plateforme Alternance pour la République et membre du comité des sages du Rassemblement. Monsieur Essanga, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, la SANCO plaide pour des négociations directes entre le rassemblement et les parties prenantes au dialogue de la cité de l'Union africaine. Pour la conférence épiscopale nationale du Congo, un compromis politique est encore possible si les parties prenantes s'y engagent et font preuve de bonne volonté. Cette position, la SANCO l'a exprimée vendredi dernier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. La SANCO dit avoir relevé des points de convergence entre les différentes parties, mais à côté, elle note l'existence des divergences qui nécessitent des échanges directs autour des points énoncés ici par l'abbé Donatien Cholet, son secrétaire général intérimaire. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Constitution, compréhension du concept du respect de la Constitution, processus électoral, séquence, calendrier, financement des élections, fonctionnement des institutions pendant la période de la transition, mesures de décrispation politique. Sur ces divergences, la SANCO estime que un compromis politique est encore possible. L'heure est grave. Aussi, la SANCO, forte de sa mission prophétique, prenant à témoin le peuple congolais et la communauté internationale, en appelle-t-elle à la responsabilité et à la bonne volonté politique les uns des autres pour éviter à notre pays de sombrer dans une situation incontrôlable.
Et tout en appelant à des échanges directs, la SANCO dit rester ouverte pour poursuivre sa mission. La position de la Conférence épiscopale nationale du Congo est diversement interprétée dans les états-majors politiques. Ils ont réagi peu après la conférence et presse de la SANCO. Le commencé de toutes ces réactions avec vous, Félix Kipela.
Dans leur déclaration publiée le même vendredi à Kinshasa, les délégués de la majorité présidentielle au dialogue parlent d'un échec et font quelques recommandations. Geneviève Inagossi.
Délégués de la majorité présidentielle au dialogue prenant acte de l'échec de la mission de la SANCO du fait des contradictions flagrantes au sein des forces politiques et sociales non signataires de l'accord politique et certaines de leurs exigences, déclarons nous en tenir aux dispositions de l'accord politique, invitant le président de la République et les autres institutions compétentes ainsi que le facilitateur du dialogue politique à poursuivre la mise en œuvre du dit accord, recommandant aux 10 institutions de prendre appui sur l'article 24 de l'accord politique pour faire droit aux préoccupations pertinentes des parties non signataires du dit accord, telles qu'elles ressortent du communiqué de la SANCO de ce vendredi 2 décembre 2016.
Les rassemblements refusent de parler d'un échec et de la médiation menée par les prélats catholiques et interprètent à sa manière la position prise par les délégués de l'AMP. Christophe Lutundula.
Contrairement aux commentaires que nous entendons de tous côtés, la SANCO n'a pas conclu sa mission de médiation. La SANCO n'a pas échoué dans sa mission de médiation. La SANCO nous a fait, à travers la déclaration, un rapport d'étape pour nous dire ceci. Je vous ai écouté les deux parties. Voici les 6 points sous lesquels je vous invite à venir autour de la table pour vous mettre d'accord et dégager un compromis qui puisse permettre la sortie pacifique de la crise. Cela confirme aujourd'hui, à travers les positions qu'ils ont prises, qu'ils ne veulent pas d'une solution négociée.
De leur côté, les délégués de l'opposition ayant pris part au dialogue disent soutenir l'appel de la CENCO et invitent les uns et les autres à s'engager résolument pour l'atteinte de l'objectif poursuivi par l'accord politique. Jean-Lucien Boussa.
Les délégués au dialogue saluent l'initiative de la CENCO qui appelle tous les acteurs politiques à parvenir à l'unique finalité de l'accord, à savoir l'alternance politique pacifique dans un délai raisonnablement court.
Abbé Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Vous appelez à des négociations directes entre les rassemblements et les parties prenantes au dialogue de la cité de l'Union africaine en vue d'éviter au pays de sombrer dans le chaos. Abbé Cholet, êtes-vous convaincu que si les deux parties se rencontrent, un compromis sera trouvé?
Oui, nous pensons qu'un compromis peut encore être trouvé. C'est question de bonne volonté politique des uns et des autres. La nature des divergences, telle que ça a été synthétisé dans le dernier communiqué des évêques, est de nature à être surmontée s'il y a un engagement de la part des uns et des autres à trouver effectivement une solution.
Après cette mission auprès du rassemblement et de la majorité présidentielle, vous pensez qu'elle a été cette mission a été une réussite ou un échec comme le note la majorité présidentielle?
Je suis franchement épuré que ceux qui sont censés être les premiers à encourager la réussite de cette mission puissent crier à l'échec. Encore que ce n'est pas le cas de parler d'un échec. Vous savez bien que cette mission qui entre dans le ministère ordinaire des évêques dans le domaine politique, qui a été par ailleurs encouragée par le chef de l'État, a consisté à rapprocher les points de vue des uns des autres. Et les évêques ont fait en amont un grand travail avec le rassemblement pour rapprocher les premières revendications de l'accord de la cité de l'UIAO de la Constitution. Et vous rendrez compte qu'il y a déjà des avancées qui ont été faites de ce côté-là. Alors, on est arrivé à un moment où il faut nécessairement que les deux parties se parlent, les uns se parlent avec les autres en face, et c'est à ce niveau-là que les évêques estiment qu'il faut la bonne volonté des uns des autres. Si la mission des évêques constituait à aller prendre les gens manu militari, alors je concède qu'on parle d'un échec. Si la mission des évêques était de prendre le rassemblement et de le faire signer l'accord de la cité de l'OIE, alors je concède que c'est un échec. Mais la mission de la CENCO étant de rapprocher les uns des autres, et la CENCO étant là au milieu en train d'attendre les uns les autres sans les prendre de force, je crois qu'on ne peut pas parler d'un échec.
Alors, Abbé Cholet, la CENCO a noté des divergences qui nécessitent des échanges directs sur les points suivants, et entre autres, les respects de la Constitution. De quoi s'agit-il exactement? Les deux parties ne se sont pas mis d'accord sur quel point?
Non, je crois que les uns et les autres jurent par le respect de la Constitution. Si tout le monde avait la même perception de ce respect de la Constitution, je crois qu'il ne poserait aucun problème. Alors, le fait qu'il y ait encore des accords, ça signifie que l'entendement de ce respect de la Constitution n'est pas le même. Voilà pourquoi, en étant ensemble, on saura davantage de quoi il est question. Voilà une raison de plus pour que les uns et les autres se retrouvent ensemble.
Tout comme pour la forme du compromis politique à trouver?
Oui, pour la forme, ça peut être un addendum, un acte additif, ça peut être que un réaménagement du texte de l'accord de la cité de l'OIA avec les éléments nouveaux apportés par ceux qui n'étaient pas au dialogue. Donc, il y a plusieurs façons de faire qui demandent qu'on se mette d'accord.
Donc, pour vous, si je vous suis bien, M. l'abbé Cholet, dans votre communiqué, vous dites il suffit que les parties prenantes fassent preuve de bonne volonté. C'est tout ce qui compte pour que la situation se décompte.
À ce stade, je crois que c'est tout ça. Donc, la bonne volonté de se retrouver autour d'une table avec un engagement ferme, patriotique, à faire des concessions nécessaires pour un accord global garant de la paix que nous souhaitons, que nous attendons tous en ce temps incertain.
La CENCO estime que l'heure est grave. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et puis grave par rapport à quoi?
La CENCO estime... Oui, parce que vous savez, nous sommes à quelques jours de la fin constitutionnelle du dernier mandat du président de la République. Et que matériellement, les élections ne seraient pas être organisées. Donc, seul un accord global engageant toutes les composantes politiques du pays pourrait garantir la paix. Mais si on arrive à cette date-là et qu'il y a une bonne foi de l'opposition qui ne se sent pas concernée par l'accord de la cité de l'OIA, ça peut aller dans tous les sens.
Merci M. l'abbé Cholet Ntala Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Pourquoi la MP crie à l'échec de la CENCO alors que celle-ci pense qu'il est encore possible de dialoguer?
Je voudrais de prime abord d'abord saluer les efforts louables de la CENCO en vue de ramener, j'allais employer une expression biblique, les brebis perdues. À ce stade, ils n'ont pas réussi cette mission. Voilà pourquoi, à ce stade, on parle d'échec. Mais néanmoins...
Vous avez suivi la béchole et...
Néanmoins, nous les encourageons à poursuivre, parce que le dialogue est un mécanisme permanent de régulation de la vie sociale, et dans tous les cas, le président de la République a comme philosophie les bras tendus, et l'accord cadre lui-même, je crois dans le point 24, laisse une ouverture à ce qui n'en fait pas part. Alors, j'ai entendu M. l'abbé parler de la bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut une volonté d'ouverture. Une volonté de dialogue, c'est-à-dire d'entrer dans la pensée de l'autre, d'en extraire l'élément essentiel pour un consensus.
Volonté de part et d'autre, de la côté de la majorité.
Oui, mais de part et d'autre. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut que ceux qui ont été à l'Union africaine négocient avec ceux qui n'y ont pas été, comme s'il s'agissait de deux entités politiques différentes et formellement identifiées. Non, un accord ne crée pas un nouveau règlement politique, à moins que ce soit l'objet de l'accord. Et donc, quand vous savez, un accord, c'est un équilibrage de paramètres en fonction d'éléments présents. Et donc, l'accord que vous avez conclu à deux, s'il y a un autre personnage qui arrive, eh bien, peut remettre cela en cause. Vous n'aurez plus cette volonté de conclure cet accord en ces termes-là. Et par ailleurs, il y a, M. l'abbé a fait allusion à ce texte additif, eh bien, lorsqu'on lit quand même le no paper qui circule, pour l'essentiel, on se réfère toujours à l'accord. Voilà, sans préjudice des dispositions telles de l'accord. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le message, c'est qu'il n'y a rien de fondamental qui pourrait empêcher aujourd'hui le rassemblement à adhérer à la dynamique nationale pour le consensus, pour un processus électoral consensuel.
La salle complète pour des négociations directes. Vous êtes pour ou contre?
Mais je vous dis que ça ne traduit pas la réalité des faits. Ce n'est pas parce que nous sommes parvenus à un accord avec telle partie de l'opposition, n'est-ce pas? Cela signifie que cette partie intègre la majorité. Et je vous ai dit, tel accord passé entre deux change de nature et même parfois d'exigence dès lors qu'une troisième personne vient pour remettre en cause l'accord. Donc s'il s'agit d'un acte d'adhésion. Ça peut se comprendre, parce que là, l'équilibre est maintenu. Lorsqu'il s'agit de remettre en cause l'accord, donc nous nous retrouvons au point de départ, la majorité d'un côté, l'opposition, ou si vous préférez, pour traduire la réalité des choses, les oppositions de l'autre côté. Donc, à mon sens, le problème se trouve plutôt du côté des oppositions. Ils doivent s'y réunir, chercher un leadership pour discuter avec la majorité. On ne peut pas prendre prétexte de l'accord pour
l'opposition
dire que...
L'opposition est prête à ces négociations directes.
Quelle opposition?
Le rassemblement.
Non, le rassemblement est une partie de l'opposition. Ils doivent d'abord coordonner, n'est-ce pas, harmoniser leur rapport avec les autres.
Les autres, vous parlez de qui?
Mais ceux qui, l'opposition qui a participé au dialogue.
Mais l'opposition qui a participé au dialogue
ne fait pas partie de la majorité.
Salue les efforts de la CENCO et appelle au plus large consensus au sein de la classe politique.
Alors qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui empêche le rassemblement?
Qu'elle est d'accord avec la démarche de la CENCO.
Oui, mais je suis d'accord. Mais j'ai dit les éléments de la démarche ne sont pas tous complets. Les éléments. Quel est le problème? C'est un malentendu, on va dire ça comme ça, au sujet du processus électoral. Eh bien, cette question n'intéresse pas seulement le président Kabila, le président M. Tshisekedi. Ça intéresse l'ensemble de la nation, l'ensemble de la classe politique, sous le leadership du garant de la nation. Voilà en quels termes cela se pose. Et donc, puisque l'accord de la Cité de l'Union africaine a résolu, a fait des propositions fiables, des propositions pertinentes sur les points essentiels évoqués, et que le rassemblement se réfère à ces dispositions-là, je crois qu'ils pourraient facilement adhérer sans trahir leur âme, si on peut ainsi s'exprimer.
Merci, Angela Tundu, Delice Sanga, députée nationale de l'opposition et présidente de l'Envol. Vous êtes aussi présidente de la plateforme Alternance pour la République et membre du comité des sages du rassemblement. Les rassemblements dits continuent à soutenir la mission de médiation de la CENCO.
Nous continuons à soutenir la médiation de la CENCO parce que ceci est cohérent avec la démarche adoptée depuis de très longs mois par le Rassemblement, à savoir que la crise dans laquelle la majorité, par le chèque de sa politique, a plongé le pays, ne peut être résolue que par le biais du dialogue. Mais nous en avons appelé à un dialogue qui soit sincère, qui soit un dialogue qui adresse, qui résolve les vrais problèmes qui se posent au pays. Et voyez-vous, y compris quand vous suivez mon frère André Atundu, vous remarquerez deux choses. D'abord, d'un côté, c'est un manque de sens de responsabilité dans la conduite des affaires publiques qui fait que par une suite de caprices quasi infantiles de la majorité, on n'est jamais parvenu depuis 5 ans à voir les vrais problèmes de ce pays. La crise à laquelle le pays est confronté, qu'ils ont nié pendant des années, depuis 2011, à la suite des élections bâclées de 2011, qu'ils ont refusé de voir à la faveur des discussions dans le cadre des concertations nationales, dont les résolutions qui ont été prises ont été depuis oubliées, et la volonté effrénée de contrôler le pouvoir par des voies anticonstitutionnelles, constitue aujourd'hui le blocage principal. Parce qu'ils ne voient dans tout qu'un enjeu de pouvoir, là où le rassemblement apporte une espérance à ce pays pour restaurer le respect de la Constitution et garantir que nos concitoyens, dans la liberté, puissent choisir les dirigeants qu'ils veulent.
Mais là, c'est quand même là le problème. C'est de votre côté.
Alors,
à
deuxième
cause
chose,
de vos contradictions,
lorsque l'on dit que l'on ramène les brebis perdues. Il n'y a pas de brebis perdues. S'il y a quelqu'un de perdu dans ce pays, c'est bien la majorité, conduite par le président de la République et son camp, qui a été incapable de garantir la continuité du cycle électoral, de préserver la constitution des différents assauts visant à déstructurer le fonctionnement de nos institutions et à s'accaparer par clientélisme d'un pouvoir voulu démocratique dans un pays qui a connu une très longue guerre. Et il y a même une contradiction au fond. Considérer qu'aujourd'hui le Rassemblement n'aurait de choix qu'à adhérer. Il adhérait à quoi? La seule chose qui s'impose aussi bien à la majorité qu'à l'opposition, c'est la Constitution, que la majorité s'est évertuée pendant 5 ans à violer impunément et à créer une crise artificielle. Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, pour une fois, je vais m'en référer, a dit quoi? A dit que ce qu'ils ont signé comme feuille de route à la cité de l'Oyoa était un élément perfectible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui-ci peut être amélioré. Mais ma foi, lorsqu'il y a un problème politique, on ne peut pas considérer que nous sommes face à un contrat d'assurance où nous n'avons le choix que d'adhérer. Encore que sur le fond des questions politiques qui ont été soulevées ici, qui sont des questions fondamentales et qui touchent à notre vouloir vivre ensemble, sur ces questions, nous avons une vision qui est tout à fait différente de la leur, parce que nous considérons que le monologue qui a été tenu de l'autre côté, parce qu'il n'a pas été inclusif, a amené des solutions qui visent à consolider la tentation d'une restauration dictatoriale dans notre pays. Et donc, il n'y a pas d'adhésion à faire, et lorsque, par suite d'une tournure, on dit « l'accord ne crée pas un regroupement politique », ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons ceci, et la majorité, et les opposants qui sont allés à la cité de l'OIA ont semblé se mettre d'accord sur un schéma. Celui-ci est cristallisé dans l'accord qu'ils ont signé. Ils ne peuvent pas le renier, parce qu'au terme de cet accord, quand bien même il n'a pas créé de regroupement, c'est au terme de cet accord qu'ils veulent mettre en place un gouvernement, soi-disant, d'union nationale. Et donc, il y a là une volonté politique d'agir ensemble. Deuxième élément, ce que la discussion qui est menée par la CENCO, qu'ils considèrent comme étant un échec, l'échec étant leur incapacité à assurer le respect de la Constitution pendant les 5 ans, aujourd'hui, la CENCO a identifié...
Mais c'est aussi, on vous accuse d'avoir des négligences qui ne respectent pas la Constitution.
Non, il faudrait bien qu'on puisse en parler à un moment donné de ces exigences soi-disant qui ne respectent pas la Constitution. Ça, c'est une vue de l'esprit. Vous savez-vous que, par exemple, le jour où le président de la République a fait son discours sur l'état de la nation, était prévu que l'on puisse avoir cette rencontre pour voir si, au fond, les propositions qui sont faites par le Rassemblement violent ou non la Constitution. Cette rencontre n'a pas eu lieu par le fait que nos amis de la majorité refusent que la rencontre puisse avoir lieu. Et je n'accepterai pas le terme qui dit que les propositions du Rassemblement, qui sont des propositions signées et assumées, constituent de nos pépères. Ils constituent des véritables propositions faites dans le sens à pouvoir résorber la crise dans notre pays et à ne pas prolonger la dictature.
Merci, Denis Sanga, je vous donne la parole. Monsieur l'abbé Cholet, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Valérien Bilizi de Bukavu au sud Kivu. La démarche de la CENCO est bonne. Cependant, je me demande que veut la CENCO en plus du dialogue récemment organisé. Si la CENCO était neutre, la démarche aboutirait. Étant donné qu'elle-même n'a pas cru au dialogue convoqué par le chef de l'État, cela semble non-sens. Quels sont pour la CENCO les indicateurs de succès de son appel contrairement au dialogue déjà organisé?
Monsieur l'abbé Cholet.
Oui, merci. Je crois que notre auditeur se souviendra que si la CENCO a quitté la cité de l'OIA, ce n'était pas par discrédit pour le travail qui se faisait là-bas, mais c'était justement à cause de manque d'inclusivité. La CENCO s'est rendue compte que quand bien même elle serait là, étant donné qu'une bonne partie de l'opposition, et pas n'importe quelle opposition, était absente de ces assises-là, Donc, il n'en sortirait pas un accord politique global. Le seul facteur pouvant garantir la paix dans le contexte actuel. Alors maintenant que le président de la République s'est rendu compte que quand bien même c'était encore nécessaire que les autres du rassemblement s'approchent, le fait d'avoir encouragé la mission de la CENCO signifie que finalement il avait donné raison à la CENCO. Il a compris que la CENCO était au milieu du village. Donc, ce que la CENCO veut faire, c'est simplement réaliser ce qui manquait, donc aider à réaliser ce qui manquait pendant qu'elle était à la cité Loya. Donc, le succès ou la réussite pour la CENCO, c'est de voir les uns les autres autour d'une table et pour pouvoir trouver finalement un compromis. Je salue en passant le courage de l'opposition qui était au dialogue, le courage de la société civile qui était au dialogue et qui, méconnaître la valeur du travail qu'ils ont fait, ils pensent que la FENCO a raison de mener ses bons offices pour intégrer les autres.
Alors, M. Labbé Cholet, on sent dans le langage de la majorité qu'elle n'est pas prête à ces négociations directes. Qu'est-ce qui se passerait si la majorité refusait ces négociations?
Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que c'est la voie de la sagesse pour juguler la crise par laquelle se trouve déjà le pays et qui risque d'aller de mal en pis. Ce serait dommage parce que c'est la majorité qui représente, disons, les institutions et donc c'est elle qui aurait le plus intérêt à favoriser cette démarche pour qu'on trouve une solution vraiment pacifique.
Et la MP regrette même le temps inutilement perdu, je répète les termes, qui a énervé le calendrier convenu par les parties prenantes au dialogue politique pour la préparation d'un processus électoral fiable et apaisé.
Bien sûr, il y a un retard qu'on pourrait éviter si les uns les autres étaient conséquents. Mais je crois que la CENCO comme institution n'a aucune responsabilité par rapport à ce retard. Alors, on peut considérer qu'on a perdu du temps, d'accord? Mais gagnons le peu de temps qui reste. Combien de jours reste pour atteindre le 19 décembre? Qui a intérêt à perdre encore le jeu?
Et vous pensez, Abbé Cholet, que si d'ici là, les deux parties ne se rencontrent pas, le 19 décembre, on risque d'avoir une situation ingérable dans le pays?
Le pays risque de sombrer dans une situation incontrôlable. Ça peut être le 19, ça peut être le 30 décembre, ça peut être janvier 2017, bref, tant qu'il n'y aura pas un accord global, ça sera une période d'incertitude. Et ça, c'est vraiment à éviter.
Merci, M. l'abbé. André Alatoumou, on va prononcer pour vous cette réaction qui nous vient de N'Djamena au Tchad.
Emmanuel Ilunga, de N'Djamena au Tchad. Je remercie infiniment la CENCO du fait de nous prendre à témoin sur les consultations qu'il vient de mener. Ceci nous permet de constater avec amertume et sans hauteur que la majorité présidentielle ne jure que par le fait des sangs longtemps promis du fait de son récit manifeste de construire son point de vue avec ceux des autres. Car, comment expliquer que lorsque la CENCO invite les différents acteurs à la société congolaise, la majorité présidentielle est la première à déclarer le fait de ses positions?
Alors vous allez nous excuser pour la qualité de ce sort. Vous avez compris quand même la question de cet auditeur, M. Satundu?
Oui, j'ai perçu. Je voudrais d'abord rappeler que la majorité présidentielle ne condamne pas la CENCO pour ses efforts. Je crois que j'ai même commencé par saluer et les encourager. Donc il ne s'agit pas ici de faire un procès de la CENCO, il ne s'agit pas non plus de faire jouer à la CENCO le rôle qui n'est pas le sien. La question de l'auditeur, il s'agit là manifestement d'une mauvaise perception des choses et d'une position plus idéologique pour se justifier que d'une position qui voit les choses sur le terrain. Les choses sur le terrain, c'est lesquelles ? C'est un chef de l'État, conscient de ses responsabilités, qui a convoqué un dialogue, appelant tout le monde, un dialogue inclusif. Eh bien, bien que d'autres n'aient pas participé, ceci n'enlève pas le caractère inclusif. Et le chef de l'État doit veiller aussi à ne pas laisser le pays en otage aux mains d'un groupe ou d'un individu. Donc, la majorité est tout à fait fière de l'initiative du chef de l'État, de l'action qu'elle a jouée et de la passion que les autres patriotes qui ont participé à la cité de l'Union africaine, au dialogue, ont manifesté pour le Congo. Donc ça, c'est important. Mais, ceci dit, je ne suis pas d'accord avec les expressions, on va dire, rhétoriques peut-être, manque de sens des responsabilités par des caprices infantiles, etc. Je crois que c'est un excès de langage qui, malheureusement, montre un manque dramatique d'esprit d'ouverture dont j'ai parlé tout à l'heure. La volonté d'ouverture. Mais dans un enfermement autistique, ils doivent voir les réalités de l'environnement. La rotation des astres ne dépend pas de leur bon vouloir. La rotation des astres, eh bien, c'était réglé par le Seigneur. Donc, je pense qu'il faut un peu de modération. Il faut une rhétorique qui puisse favoriser le consensus. Il faut dépersonnaliser le débat.
Alors,
il faut républiciter, si je puis ainsi m'exprimer, le débat.
Tout c'est-à-dire, vous avez demandé au Rassemblement d'adhérer à l'accord du 18 octobre dernier. Ça veut dire que le Rassemblement va venir et signer, même si il n'est pas d'accord avec certains points de l'accord.
Qu'est-ce que l'accord contient ? L'accord contient des propositions sur des questions essentielles. La refonte. On va parler de le rassemblement demande qu'on puisse discuter de la refonte, etc. Mais c'est une question technique qui a mis tous les politiques d'accord. Que va-t-on encore dire ? Et en plus, dans leur papier, qui refuse qu'on qualifie de non-peuple, ils se réfèrent nonobstant l'article, il faut quand même. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a une base, que l'accord a l'essentiel, et que tout le reste, ce sont des approches un peu cosmétiques, on pourrait s'arranger. Je pense que le travail effectué par ceux qui étaient au dialogue a servi la cause de la démocratie, a servi la cause de la paix. Et le fait que toute la communauté internationale était là, n'a pas désapprouvé les termes de l'accord. C'est un message envoyé à l'Europe.
Mais cette communauté internationale appelle à l'inclusivité.
Mais bien sûr, bien sûr. Madame, le magasin est ouvert. Mais vous n'y entrez pas. Est-ce qu'on peut condamner le magasinier de fait qu'il ne vous a pas amené à entrer dans son magasin ? C'est une volonté d'ouverture, c'est ça que je dis. Le magasin est ouvert. Il faut une volonté d'ouverture, c'est-à-dire y entrer et ressortir. Ils n'ont pas cette volonté d'ouverture, malheureusement.
Merci, M. Tundu. Délice et Sangha va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
À Tibou, Jean-Pierre Filomba, Wakabe Rachidi, depuis Mbujimayi au Kassa Oriental. Ce consensus direct entre les deux camps est celui que tout le peuple congolais souhaite pour amener la paix dans notre pays. La question qui se pose et que si la majorité tire les bras de son côté et que l'opposition fait de même, ces politiques dans leur ensemble sachent qu'ils vont nous faire souffrir davantage que Kabila et Tshisekedi mettent de l'eau dans leur vin afin d'éviter le pire aux jours qui vont suivre. Tout ce que nous voulons, ce n'est que la paix au grand format en RDC.
Monsieur Sessanga, vous devez mettre de l'eau dans votre vin.
Mais écoutez, cette auditrice a parfaitement raison. Elle a si bien raison que...
Cet auditeur.
Pour cet auditeur, oui. A raison tellement que pour le président du Conseil d'État du Rassemblement, qui a reçu la Synco, et pour le rassemblement qui a eu à l'exprimer à maintes reprises, nous sommes ouverts pour le dialogue, pour trouver une issue pacifique à la crise, sans sacrifier l'essentiel, c'est-à-dire les acquis que nous avons bâtis pendant des années, à savoir bâtir dans ce pays un État véritablement démocratique et qui soit un État de droit.
Et balayer toutes les recommandations issues de l'accord du 18 octobre.
Nous avons considéré, et je crois que c'est un tout petit peu de la mauvaise foi de la part d'André Alain, il reconnaîtra que, en ce qui nous concerne, nous considérons à juste titre que l'accord qui a été trouvé, qui les a mis d'accord avec une partie de l'opposition qui y est allée, constitue la base de leur proposition, que nous prenons donc en considération. Et donc nous ne sommes pas ici dans une négation de l'autre. Et cet esprit d'ouverture, on le trouve bien chez nous, parce que nous sommes ouverts à cet échange, à ces négociations directes. Ceux qui aujourd'hui refusent ces négociations, ce sont eux, parce qu'ils ne considèrent qu'il n'y a des visions du monde, que c'est que eux, ils ont coulé et considèrent que leur accord constitue aujourd'hui un contrat d'assurance où on ne doit venir que pour adhérer. Et le terme est même choquant. Quand André Alain parle du magasin, du magasinier, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magasin? C'est qui les magasiniers? Il n'y a pas ici le propriétaire du magasin qui a ouvert un magasin et qui dit que vous entrez. Nous sommes face à une crise institutionnelle provoquée par la majorité, le président de la République et son camp, et nous en sommes aujourd'hui à vouloir trouver une solution pacifique à cette crise. Ils ont formulé des propositions comme étant la solution à cette crise. Nous considérons qu'on peut mieux faire pour se rapprocher davantage de la Constitution. La seule chose que demande le Rassemblement, c'est qu'on puisse se retrouver et que cela soit fait dans le meilleur délai avant le 19 décembre.
Avec ou sans médiation?
Écoutez, actuellement, l'initiative qui est conduite par la Synco, que nous soutenons, que, me semble-t-il, ils soutiennent, parce que de ce qu'il dit devant ce micro, ils sont d'accord avec l'initiative menée par les évêques, mais dans la finalité, ils ne conçoivent autre chose que la médiation soit venue pour nous chercher, pour aller adhérer à leur accord. Or, à l'introduction de cette émission, l'abbé Cholet vous a dit, lorsque l'on recherche un compromis, et M. André Alain Atundu, qui est un homme d'expérience, il sait très bien que lorsqu'on va négocier un compromis et qu'on fait part d'un esprit d'ouverture minimum, on ne peut pas demander à un partenaire de venir adhérer à ces propositions. Nous avons des propositions, nous pensons que ce qui a été fait à l'OUA constitue la position de la majorité plus l'opposition qui est allée. Ils ont fait un travail pour lequel nous avons des critiques et pour lequel le président de la République a dit que ce travail était perfectible, mais qu'ils viennent autour d'une table s'ils sont véritablement des patriotes et qu'ils veulent une solution pacifique pour qu'on trouve une solution à cette crise qu'ils ont par ailleurs provoquée.
Et pour le rassemblement, ce dialogue doit se tenir avant le 19 décembre?
Il doit se tenir dans le meilleur délai. Nous sommes prêts depuis très longtemps pour pouvoir en discuter. Nous avons fait preuve de suffisamment d'ouverture et de suffisamment de flexibilité dans les propositions qui sont faites afin de pouvoir avancer. Mais ceci dit, le rassemblement ne va jamais sacrifier, si vous voulez, la Constitution et les acquis qui a eu lieu dans ce pays où nous avons... où nous nous sommes entendus après une très longue guerre civile, qu'il n'y aura plus personne, aucun Congolais, qui va assumer plus de 2 mandats comme président de la République et que nous devons avoir des élections régulières pour renouveler les institutions. Ça, c'est un acquis fondamental.
Merci, M. Sessanga. M. l'abbé Cholet, la SENCO est-elle prête aujourd'hui à faire la médiation lors de ces négociations entre les rassemblements et les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine?
La SENCO ne s'affiche pas en demandeur d'emploi, mais pour la SENCO, c'est une mission, c'est un devoir que d'offrir ces bons offices pour un exercice qui est susceptible de ramener la paix dans ce pays. N'oubliez pas que l'enjeu majeur pour la SENCO, c'est le bien-être du peuple congolais. J'aimerais que les uns les autres, je parle des acteurs politiques, aient ça toujours à l'esprit. Considérez que la situation sociale de notre population ne fait que se détériorer. Je crois que personne ne pourra me contredire à ce point. Et tout ce que nous devons faire, c'est chercher une solution susceptible d'améliorer les conditions de nos populations. Donc, j'en appelle à la méditation, j'en appelle au bon sens des uns des autres. Donc, par rapport à cela, les évêques n'hésiteront jamais à offrir leurs bons offices pour ramener les uns aux autres pour un accord susceptible de rapporter la paix, une paix sur laquelle pourra être bâti le développement.
Et donc la seule solution aujourd'hui pour vous, Abbé Cholet, ce dialogue entre le rassemblement et les parties prenantes au dialogue de la cité de l'Union africaine, sans ça, le pays va sombrer dans le chaos.
La CENCO reste convaincue que dans le contexte qui est de la RDC aujourd'hui, seul un compromis politique global peut garantir la paix, ce qui n'est pas encore le cas avec l'accord de la cité Noïa.
Merci, M. l'Abbé Cholet. Il faut sortir de cette impasse. Qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'il y a un problème qui se pose.
Je propose que tous, rassemblement, rejoignent les autres compatriotes dans la dynamique nationale pour le processus électoral. Le dialogue a été convoqué pour un sujet précis, le processus électoral, et non une sorte de jury général de la situation générale du pays. Non, le dialogue a été convoqué à cet effet. Et les questions abordées étaient dans ce sens, les solutions préconisées également. Alors voilà pourquoi, on dit, au lieu de perdre encore du temps, il faudrait rejoindre, accepter la valeur de ce que les autres ont fait et pouvoir, comme l'a dit le président, perfectionner, s'il en est. Au lieu de garder une posture de tour d'ivoire, il faut savoir descendre aussi pour sauvegarder les intérêts majeurs de la démocratie et de nos peuples. On a parlé du respect de la Constitution. Le respect de la Constitution suppose que vous acceptez que les organes qui sont chargés de trancher les différences d'interprétation entre les partenaires politiques, il faut que cela fasse autorité et référence. Donc, lorsqu'on parle, j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une sorte de poker menteur. Ce que l'on dit et ce que l'on entend, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il nous faudrait vraiment éviter des propos négationnistes qui pourraient s'avérer contre-productifs. Et je pense que l'intérêt de la nation et de la démocratie, aujourd'hui défendu par le garant de la nation et défendu par le dialogue, eh bien, c'est la valeur suprême.
Alors, est-ce qu'après cette émission, on peut se dire que la MP est contre ces négociations directes, en un mot?
Comment donc?
Est-ce qu'après cette émission, on peut conclure que la MP est contre ces négociations directes que propose la CENCO?
Est-ce que le monde est blanc ou noir?
Répondez à la question.
Mais la question ne se pose pas de cette façon-là. C'est vraiment prendre la question du mauvais côté.
Le dialogue est
toujours privilégié par la majorité présidentielle, mais pas à n'importe quel prix.
Merci, M. Tundou. M. Sessanga, votre conclusion, comment sortir de cette impasse?
Il faut que la majorité, après avoir organisé la débâcle de nos institutions, ne prenne pas le pays en otage et comprenne qu'il est venu le temps où les fils du pays, tous ensemble, nous devons nous mettre autour d'une table pour parler des problèmes de ce pays qui nous appartient à tous. Et il est possible de trouver une issue pacifique. La majorité n'a pas le droit de plonger ce pays dans une crise institutionnelle de laquelle nous sommes sortis au prix de beaucoup de sacrifices. Et donc, je les appelle à la raison, à la modération et au sens des responsabilités.
Merci, M. Sessanga. M. l'Abbé Cholet, un mot en guise de conclusion.
Comme dernier mot, je dirais que l'heure n'est plus aux calculs d'intérêts politiques, l'heure n'est plus aux spéculations politiciennes. Le moment est plus que venu pour que le peuple congolais soit considéré dans sa souffrance et que les uns les autres mettent de l'eau dans leur vin.
Merci, M. l'abbé Cholet, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.